VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 5 octobre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Des soldats nigériens et des bérets verts américains tués hier dans une embuscade au Niger, près de la frontière malienne.
Au Togo, une autre manifestation est prévue aujourd'hui, baptisée la Marche de la Colère.
La Côte d'Ivoire va investir des millions d'euros pour améliorer les casernes et les conditions de vie de ses soldats.
Washington juge inacceptable les violences en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance dans les zones anglophones camerounaises.
Le président américain Donald Trump a loué hier à Las Vegas le courage des blessés du carnage de dimanche soir.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Niger, 5 soldats nigériens et 3 membres des forces spéciales américaines ont été tués dans une embuscade près de la frontière malienne. Des détails avec Jean-Roger Bion.
2 autres soldats américains ont été également blessés dans cette attaque qui a eu lieu mercredi lors d'une patrouille conjointe dans le sud-ouest du Niger, selon des officiels nigériens et américains. Des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, et du groupe État islamique sont présents dans cette région, a encore dit un officiel américain. On ne sait pas qui a tiré sur les bérets verts et les forces appuyées par les États-Unis, a souligné le même officiel. Il précise que la patrouille n'avait aucune mission spécifique, comme par exemple viser une cible importante ou secourir des otages. À Stuttgart, en Allemagne, un porte-parole d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, a confirmé l'attaque en parlant d'une embuscade létale près de la frontière entre le Niger et le Mali. Namata Aboubakar, un officiel de la région de Tillabéri au Niger, a confirmé la mort de 5 soldats nigériens et une source diplomatique nigérienne a déclaré que les assaillants venaient du Mali et avaient tué plusieurs soldats sans dire si des militaires américains basés au Niger faisaient partie des morts. Le président américain Donald Trump a été informé par John Kelly, le secrétaire général de la Maison-Blanche.
Au Togo, une autre manifestation est prévue ce jeudi, baptisée la Marche de la Colère. L'opposition togolaise veut ainsi rééditer le 5 octobre 1990, date du premier soulèvement populaire au Togo. Déjà hier, après des semaines de mobilisation, des milliers de Togolais ont manifesté à Lomé et en province pour exiger des réformes constitutionnelles. Kayi Lawson nous en dit plus.
Le leader de l'opposition togolaise le plus adulé en ce moment, j'ai nommé le président du PNP, Tipi Hachadam, était dans les rues de Lomé ce 4 octobre. De quoi galvaniser les foules. C'est notre sauveur, a lancé un manifestant lorsque Tipi Hachadam est monté sur l'escalade pour livrer son message. Sans détour, il a indiqué que les Togolais sont proches de ce qu'ils réclament, c'est-à-dire la constitution originelle de 1992. Ainsi, il a invité les manifestants à répondre massivement à la marche du 5 octobre qui est une référence en matière de marche démocratique au Togo. Rappelons que c'est le 5 octobre 1990 que les Togolais se sont soulevés pour la première fois contre le pouvoir de Nyasimbe. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Guinée, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté hier à Conakry. Ils dénonçaient l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre lors de leurs manifestations politiques, selon des correspondants de l'AFP. L'opposition estime que 83 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre dans de telles manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé en 2010. Ces décès n'ont pas été suivis d'enquête ou de procès, selon elle.
La Côte d'Ivoire va investir 7,6 millions d'euros pour améliorer les casernes. Selon le porte-parole du gouvernement, cet investissement permettra d'améliorer les conditions de vie des soldats. Eddy Issango.
5 milliards de francs CFA, soit 7,6 millions d'euros, seront immédiatement dégagés, selon Bruno Koné, les porte-parole du gouvernement ivoirien. Ils serviront à la réalisation des travaux urgents dans les casernes militaires, notamment la construction et la réalisation des cuisines et des réfectoires. Le président Alassane Ouattara avait promis début août d'investir davantage dans les forces armées. La Côte d'Ivoire est secouée depuis janvier par plusieurs mutineries d'anciens rebelles intégrés à l'armée qui ont revendiqué et obtenu des primes. Les anciens rebelles démobilisés aussi réclament leur part de butin. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs attaques contre des postes de police et de gendarmerie. Des séries de braquages ont aussi permis à des hommes non identifiés de voler des armes et de l'argent. Les autorités accusent d'anciens partisans de Laurent Gbagbo, l'ancien président jugé par la CPI à La Haye.
Les groupes armés en Centrafrique ont eu recours au viol et à des esclaves sexuels à travers le pays comme tactique de guerre pendant près de 5 ans de conflit, a dénoncé aujourd'hui dans un rapport l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Les commandants des unités ont toléré les violences sexuelles commises par leurs troupes et dans certains cas semblent les avoir ordonnées ou y avoir participé eux-mêmes, affirme le document de 176 pages. De nombreux témoignages de victimes racontant dans le détail des viols à répétition chaque jour et des meurtres de proches, mari ou enfants, renforcés par des entretiens avec des fonctionnaires, des policiers et des médecins, étaient les accusations de Human Rights Watch.
Les États-Unis ont jugé mercredi inacceptables les violences en marge d'une proclamation symbolique d'indépendance dans les zones anglophones du Cameroun et ils ont appelé les autorités de Yaoundé à respecter les droits de l'homme.
Au moins 17 personnes sont mortes et 26 autres portées disparues après le naufrage d'un bateau qui transportait une 60aine de passagers dans le nord-ouest du Nigeria. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le bateau se dirigeait vers l'état voisin du Niger lorsqu'il a heurté un tronc d'arbre sur le fleuve du même nom. 12 corps ont été repêchés mardi et 5 autres mercredi, selon Souleymane Mohamed Karim, coordinateur régional de l'Agence nationale de gestion des urgences. 17 autres passagers ont été sauvés. Le nombre d'accidents augmente durant la saison des pluies, avec la montée du niveau des eaux des fleuves et rivières après de fortes précipitations. En septembre, au moins 74 personnes sont mortes dans 3 naufrages différents dans le nord du Nigeria. 56 se sont noyées dans le fleuve Niger, dans l'état de Kebbi. Leur bateau transportait près de 150 passagers.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a loué hier à Las Vegas le courage des blessés du carnage qui a fait 59 morts, dont le tireur embusqué et près de 500 blessés. Monsieur Trump est resté très prudent sur les mobiles du crime d'un homme malade, d'après le locataire de la Maison Blanche. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'Amérique est véritablement un pays en deuil, a lancé Donald Trump après s'être rendu accompagné de sa femme Melania dans un hôpital de la capitale endeuillée des casinos, du jeu des paillettes. S'il a longuement salué la mobilisation des héros, médecins, infirmiers, policiers de cette sombre soirée, assuré être à 100% avec les victimes, le président américain est resté évasif sur l'avancée de l'enquête, se bornant à réaffirmer que le tireur était, je cite, un homme très malade. Peu d'éléments permettent à ce stade d'expliquer le geste du tireur, Stephen Paddock, qui avait accumulé un arsenal de 47 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. Même la compagne du tueur ignorait tout de ses projets de fusillade, d'après une déclaration lue par son avocat. Comme à chaque fusillade de masse, le débat sur l'encadrement des ventes d'armes à feu a été relancé, plusieurs voix démocrates réclamant haut et fort un débat de fond et des initiatives législatives fortes. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui, a répondu laconique le président américain qui a rejoint Washington mercredi dans la soirée.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a démenti les informations selon lesquelles il était sur le point de démissionner en juillet et il a réaffirmé énergiquement son soutien au président Donald Trump et à sa politique étrangère. M. Tillerson réagissait à des informations de la chaîne NBC sur des tensions entre le président et son ministre des Affaires étrangères. Selon les mêmes sources, Rex Tillerson avait également traité M. Trump d'abruti à la fin d'une réunion au Pentagone. Interrogé à ce sujet, M. Tillerson n'a pas démenti directement, se contentant de répondre « Je ne vais pas m'occuper de choses aussi insignifiantes ». Pour sa part, le président Trump a qualifié l'article de NBC de « fake news » ou « fausse nouvelle ».
Les forces irakiennes ont annoncé aujourd'hui avoir repris le centre de Hawija, le dernier bastion du groupe État islamique dans le nord de l'Irak, affirmant poursuivre leur progression pour libérer l'ensemble des environs.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite est arrivé hier à Moscou. Le souverain wahhabite effectue là sa première visite officielle en Russie. Le point avec John Lyndon.
C'est une visite officielle de 3 jours. C'est aussi la première fois qu'un souverain d'Arabie Saoudite se rend en Russie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Salman Ben Abdelaziz Al Saoud est arrivé hier en fin d'après-midi à Moscou avec une délégation de près de 1000 personnes. Le roi a été accueilli par la garde d'honneur et par un orchestre militaire. Une délégation amenée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères lui a souhaité la bienvenue sur le sol russe. La rencontre du président russe Vladimir Poutine et du roi Salman est prévue ce jeudi. Auparavant, le roi d'Arabie Saoudite doit se rendre à un forum d'investissement russo-saoudien. Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine abordera avec le roi la question de la baisse de la production de pétrole, ainsi que la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'accent devrait être mis sur les efforts à faire pour parvenir à la résolution des conflits existants. Il n'est en outre pas exclu que la coopération militaire et technique soit à l'ordre du jour de leurs entretiens.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
Le gouvernement ivoirien et le Fonds monétaire international se sont entendus sur une série de mesures de politique budgétaire visant principalement à faire baisser le déficit à 3,75% du PIB en 2018. Pour le FMI, tous les critères de performance et les repères indicatifs pour fin juin 2017 ont été atteints. Malgré la chute des prix du cacao, les performances économiques du pays se sont poursuivies en 2017 et demeurent bonnes à moyen terme. Rwandair, la compagnie nationale rwandaise, a ouvert depuis lundi ses 3 vols hebdomadaires à partir de Dakar. Cotonou était jusque-là le hub ouest-africain de Rwandair en Afrique de l'Ouest. Une bonne nouvelle pour les autorités sénégalaises à quelques mois de l'ouverture officielle en décembre de l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Après une fermeture de 3 ans due aux opérations militaires contre les groupes rebelles, le port de Benghazi a rouvert ses portes. Les forces armées du pays ont mis 6 mois pour réussir à nettoyer le bassin du port de tous ses débris et à débarrasser le port et ses environs de toutes les munitions qui s'y trouvaient encore.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Elista, bonjour à tous.
Kolo Touré, nommé sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire.
L'ancien joueur ivoirien vient d'être nommé alors que les éléphants sont à 2 matchs de la qualification pour la Coupe du Monde 2018. La Côte d'Ivoire est première du groupe C avec 1 point d'avance sur le Maroc. Kolo Touré, déjà coach adjoint des équipes locales et olympiques, viendra prêter main forte au sélectionneur des éléphants en tant que deuxième adjoint. Déjà en sursis, le sélectionneur Marc Wilmots devra trouver la solution face aux Aigles du Mali, déjà presque éliminés ce vendredi lors de la 5e et avant-dernière journée des qualifications de la zone Afrique.
Afrique du Sud Sénégal, reprogrammé au 10 novembre.
Initialement prévu le 8 ou le 9 novembre, la rencontre Afrique du Sud Sénégal de la 2e journée des qualifications aura lieu finalement le 10 novembre à Polo Kwame, ainsi en a décidé la FIFA. On se souvient que cette rencontre avait été initialement jouée en novembre 2016. Elle avait été remportée 2-1 par les Bafana Bafana grâce à un pénalty imaginaire. Depuis, l'arbitre de cette rencontre a été suspendu à vie. La FIFA a décidé de faire rejouer le match et le Burkina Faso a fait appel devant le tribunal arbitral du sport. En attendant la décision du TAS, ce match aura bien lieu le 10. On rappelle que le Sénégal se déplace au Cap-Vert pour affronter les Requins Bleus à Praia ce week-end. Quant au Burkina Faso, il jouera face à l'Afrique du Sud à Johannesburg.
La 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique ce week-end avec peut-être les premiers qualifiés africains pour le Mondial 2018.
5 places, aucun qualifié pour l'heure. Il y aura évidemment une forte attente du côté du Nigeria qui reçoit la Zambie. En cas de succès, les Nigérians qui pourraient se qualifier pour cette Coupe du Monde 2018. On rappelle que dans ce groupe B, le Cameroun affrontera Yaoundé, l'Algérie. Ces 2 équipes mondialistes sont déjà éliminées. La Tunisie, dans le groupe A, se déplace à Conakry, le Sili national déjà éliminé. Et puis la RDC à 3 points de la Tunisie dans ce groupe A. La RDC qui voyagera à Monastir en Tunisie pour affronter la Libye déjà éliminée.
et la Syrie qui pourrait aussi se qualifier.
Pour cela, la Syrie devra remporter dès ce soir sa double confrontation face à l'Australie en barrage, puis le mois d'après, en cas de succès, affronter une équipe de la zone CONCACAF, Amérique du Nord, Amérique centrale et les Caraïbes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, toujours pas de calendrier électoral à moins de 3 mois de l'échéance du 31 décembre fixée par l'accord politique. Entre-temps, l'Union africaine suggère de nouvelles négociations que boude une bonne partie de l'opposition et de la société civile. Eddie Sango a interviewé à ce sujet le coordonnateur du groupe Congo American Bridge qui a évoqué la situation au Congrès américain, Ali Mulumba.
Tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'élection en RDC. Et nous avions saisi cette opportunité lorsque nous avions rencontré les sénateurs et les congrès pour leur demander de faire avancer les choses en votant une loi. Cette loi va avoir des répercussions sur le régime actuel de Kinshasa parce que c'est le régime qui est responsable de la non-tenue des élections. Et lorsque nous voyons comment les choses sont en train d'avancer à 3 mois, rien n'est annoncé en termes de calendrier, rien n'est fait, il n'y a aucune volonté. Leur langage, quand vous suivez Tshibala, quand vous suivez les autres, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de tenir des élections. Les sanctions doivent être prises à ceux-là qui sont en train de bloquer le processus électoral en cours en RDC.
La région du Kasaï connaît encore une certaine instabilité. La guerre a répris dans l'est de la RDC avec des nouvelles rébellions. Pendant ce temps, l'Union africaine propose des nouvelles tractations. Qu'est-ce que vous en dites?
Notre mouvement, par exemple, le Stand Up with Congo, a été unanime que nous ne pouvons pas, au-delà du 31 décembre, rester encore avec M. Kabila en tant que président de la République. Il faut chercher d'autres mécanismes. L'accord qui a été fixé, c'est-à-dire l'accord de l'année passée, du mois de décembre, lui permet jusqu'à présent de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encore donner une autre justificative. S'il est au pouvoir, c'est grâce à cet accord-là. Donc, aller au-delà du 31 décembre, nous ne pouvons pas proposer cela.
Certains proposent une transition dont la durée n'est pas déterminée. Certains parlent de 6 mois, 2 ans, mais sans Kabila, certains disent qu'il faut une transition avec Kabila.
C'est là qu'ils disent une transition avec Kabila, c'est trompe, parce que Kabila, ça fait plus de 15 ans qu'il est au pouvoir. Si vous l'ajoutez encore même une année, rien ne sera fait. Ce qu'il n'a pas fait pendant 15 ans, pendant 10 ans, vous croyez qu'il va le faire même si vous l'ajoutez, disons même encore 3 ans. Il ne le fera pas. Au contraire, il va encore accentuer la situation. Au cas où il n'y a pas d'élection le 31 décembre, d'abord la première chose, la simple des choses, est que Kabila dégage. Et lorsqu'il sera parti, on peut faire un consensus autour d'une personne, autour d'une organisation qui peut mener une courte transition. Et je suis en train de voir, moi, que cette courte transition peut être menée par la société civile. Ce ne sont pas les gens qui manquent au sein de la société civile congolaise. Les problèmes du Congo actuel, c'est Kabila. Si Kabila part, je vous dis que la solution sera trouvée immédiatement. Tout ce qu'on fait là, c'est du travail-là. Ce sont du montage, ce sont des jets qu'ils sont en train de fabriquer pour se maintenir au pouvoir. Toute la population est déjà fatiguée de cet homme-là.
À Washington, Ali Mulumba du groupe Congo American Bridge.
Restez branchés 24 sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Seuls 11 réfugiés rwandais sur les milliers enregistrés au Congo-Brazzaville se sont manifestés pour retourner au Rwanda. Tous les autres ne veulent pas rentrer, redoutant toujours le pouvoir de Kigali. Notre correspondant Nguela Ngoussou est allé à leur rencontre.
Actuellement, on est en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc, les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépits qui suscitent au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient, à partir du 31 décembre 2017, leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du HCR Kabetu au nord du Congo où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs, il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés. Soit le rapatriement que le HCR pourrait faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce que le Rwanda est en train de faire. Donc, qu'ils affichent la paix aux réfugiés rwandais, qu'ils laissent les réfugiés rwandais vivre dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Niramaoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé le dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moke, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ce soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous avons saisi la Commission africaine des droits des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Et Kia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation au Cameroun. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation. Elle exige le retour au fédéralisme sans obtenir satisfaction du gouvernement. Faut-il proclamer l'indépendance des régions anglophones? Comment réconcilier les différentes régions? Comment sortir de cette crise? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, c'est jeudi à 19h en temps universel.
À Paris, poursuite aujourd'hui de la réunion entamée hier par des ministres des pays ayant en commun le franc CFA, et ce, autour du ministre français de l'économie. Cette réunion se tient dans le cadre de la rencontre qui précède les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Sur cette question du franc CFA qui fait polémique, Idriss Fall a recueilli l'avis de l'économiste sénégalais El Hadj Omar Ndao de l'université du Sine Saloum.
Le débat sur le CFA, les profanes, entre guillemets, ils donnent leur position, c'est tout à fait légal. Les politiques donnent leur position, mais je pense qu'il ferait mieux qu'il y ait un débat autour des politiques, des spécialistes, qu'ils puissent s'asseoir et en discuter dans les profondeurs. Le CFA ne nous arrange pas. Pour un pays qui veut émerger, l'arrimage du CFA à l'euro est de 100%. Ça n'existe dans aucune économie au monde. Pour qu'une monnaie soit valable et maniable avec une bonne politique monétaire, il faudra au moins qu'il y ait 50% d'arrimage, 50% de la possibilité de fluctuer. Mais malheureusement pour le CFA, si on veut booster par exemple nos exportations, on n'a pas de possibilité de réduire notre valeur. Donc le CFA suit aveuglément l'euro. C'est pour cela qu'on dit qu'en réalité, il n'y a pas de politique monétaire pour la zone CFA, mais on ne peut pas sortir du CFA pour un micro pays comme le Sénégal avec 15 millions d'habitants. On doit sortir du CFA en groupe comme la zone UEMOA, la zone CEDEAO. Pour espérer avoir une économie qui suit la valeur monétaire suivant l'économie, il faut au moins 100 millions d'habitants.
Mais qu'est-ce qu'on va faire du Nigeria et du Ghana qui ont déjà leur propre monnaie?
Ces pays qui ont leur propre monnaie. Par exemple, le cas de l'Union européenne. L'Allemagne avait le Deutsche Mark. La France, le franc français, ainsi de suite. Mais ils se sont arrangés en créant une monnaie, mais on va prendre une monnaie comme une monnaie internationale, telle que le dollar, l'euro, ou bien une autre monnaie, le dollar canadien, le dollar australien, ainsi de suite, ou bien le yuan chinois. Et dans ce cas, les autres pays comme la Gambie, le Ghana, le Nigeria, on va chercher une monnaie commune avec un taux d'échange par rapport à une autre monnaie, pour échanger la valeur de la monnaie locale par rapport à la nouvelle monnaie créée.
Donc on peut dire pour conclure que ce n'est pas demain la veille qu'on verra une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. en toute sincérité, politiquement, on n'est pas encore prêt. Parce que c'est ce qui portait le débat au sein de l'Union africaine, il y avait Kadhafi, le feu Kadhafi. Du point de vue économique, il était le porte-drapeau, en quelque sorte, de l'Union africaine, en voulant accélérer le processus de création d'une monnaie commune. Après lui, on a entendu le cas de Déby en 2015, il en avait parlé, mais depuis lors qu'il n'est plus dans le débat. Mais je sais que quand on doit créer une monnaie, ça doit être au moins une monnaie de l'UMOA ou bien de la CEDEAO, mais pas une monnaie pour le Sénégal ou bien pour le Mali ou bien pour uniquement le Nigeria.
L'économiste sénégalais El Hadj Omar Ndaou de l'université du Sine Saloum.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Une maladie hautement contagieuse se propage parmi les poissons tilapia sauvages et ceux provenant de la pisciculture. La FAO met en garde contre le virus de lac du tilapia, consommé dans beaucoup de pays africains. Et le Bénin vient d'interdire l'importation de tilapia venant de pays comme l'Équateur, la Colombie, l'Égypte, Israël et la Thaïlande. Solange Nia Moulissa a joint Martin van der Nap, chargé de la pêche et de l'agriculture au bureau régional de la FAO à Accra, au Ghana.
En Afrique, il y a plusieurs pays qui se concentrent sur la production de tilapia du Nil. Il y a les menaces de ce virus, le tilapia virus. Quand on importe ce virus dans les étangs de poissons ou bien dans les cours d'eau, comme des lacs, des réservoirs, des fleuves, il y a une mortalité incroyable. C'est vraiment très contagieux. Il faut vraiment craindre que ça ne se passe dans trop de pays parce que la production de poissons se diminue directement parce que la mortalité s'augmente immédiatement. Et en ce qui concerne la sécurité alimentaire, il faut être prudent. Parce que beaucoup de gens dépendent de la production de tilapia en Afrique, pas seulement l'aquaculture et la pêche, mais aussi la transformation et la commercialisation de ces poissons.
Mais est-ce que ces virus est dangereux pour les personnes qui consomment les tilapia?
Par exemple, si le poisson est vivant, on le tue pour la consommation, il n'y a probablement pas de problème. Mais si le poisson est déjà mort, il ne faut pas le manger. Il ne faut pas prendre des risques. Mais ce qu'il faut éviter, c'est la panique. Par exemple, il y a déjà des pays qui ont fermé leurs portes pour l'importation du poisson. Et par exemple, du poisson congelé. Ce poisson est déjà mort, et probablement il n'y a pas de problème avec. Mais si on importe des poissons vivants et on ne connaît pas l'origine de ce poisson, on peut obtenir des problèmes. Donc, il faut vraiment être prudent avec l'importation.
Mais du coup, est-ce que ces pays, ils ont raison d'interdire l'importation ou pas? Est-ce que c'est la solution?
Je ne crois pas que ce soit vraiment la solution, mais c'est une mesure de précaution. Donc, si par exemple, ici au Ghana, si on continue à élever des poissons dans les étangs et les cages avec des géniteurs de tilapia locaux, il n'y aurait pas de problème. Mais dès qu'on importe les alevins, les frétins, d'ailleurs, on ne peut pas garantir que ce poisson soit sans virus. Il vaut mieux fermer les frontières pour éviter les catastrophes.
Et qu'est-ce que la FAO recommande alors comme solution?
Nous sommes en train de préparer des projets pour qu'on puisse améliorer le suivi du poisson. On commence à introduire des cours de formation pour une meilleure organisation, pour mieux connaître les symptômes, pour mieux connaître les conditions des poissons qui sont déjà affectés par la maladie. Comment reconnaître la maladie? Comment reconnaître les symptômes de ce virus pour qu'on évite la distribution de cette maladie?
Martin van der Nap, chargé de la pêche et de l'agriculture au bureau régional de la FAO à Accra, au Ghana.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
VOAAfrique vous donne la parole.
dans un nouveau programme interactif à votre avis, du lundi au vendredi à 18h CU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.